prochain épisode, c'est en Genèse chapitre 29. Ce sera Jacob, c'est celui qui va devenir Israël. Non, c'est sûr que c'est un personnage hyper important de la Bible. Mais avant qu'il devienne Israël, Jacob a connu pas mal de péripéties et d'aventures. C'est un parcours de vie que Dieu nous livre en Genèse. C'est comme Jacob qui va apprendre ce qu'est la foi, apprendre qui est Dieu. Et lui-même être transformé. Donc, Genèse chapitre 29, on va retrouver mensonge et magouille, mais aussi la grâce de Dieu. Donc, vous êtes prêts pour encore une lecture de ce chapitre, tous ces détails bien riches. Genèse 29. Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda, et voici, il y avait un puits dans les champs. Et voici, il y avait à côté trois troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là, on roulait la pierre de dessous l'ouverture du puits, on abreuvait les troupeaux et l'on remettait la pierre à sa place sous l'ouverture du puits. Jacob dit aux bergers, mes frères, d'où êtes-vous? Ils répondirent, nous sommes de Charan. Il leur dit, connaissez-vous Laban, fils de Nacor? Ils répondirent, nous le connaissons. Il leur dit, est-il en bonne santé? Ils répondirent, il est en bonne santé. Et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. Il dit, voici, il est encore grand jour, il n'est pas temps de rassembler les troupeaux, abreuver les brebis, puis allez, faites-les paître. Ils répondirent, nous ne le pouvons pas, jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. C'est alors qu'on roule la pierre de dessous l'ouverture du puits et qu'on abreuve les brebis. Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits, et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob baisa Rachel, il éleva la voix et pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca. Elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, il l'embrassa et le baisa, et le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses, et Laban lui dit, certainement, tu es mon os et ma chair. Jacob demeura un mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de te la donner à notre homme, reste chez moi. Ainsi, Jacob servit 7 ans pour Rachel, 7 années pour Rachel, et elle fut à ses yeux comme quelques jours parce qu'il aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Jacob fit ainsi, il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille, et Laban donna pour servante Rachel, sa fille, Bila, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. L'Éternel dit que Léa n'était pas aimée. Il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée. Il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Simeon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, pour 7 fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit 7 fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda. Elle cessa d'enfanter. Donc, comme on a dit ce matin, nous trouvons dans ce livre de la Genèse beaucoup de personnes qui sont en recherche de la bénédiction, ce que ce livre Genèse appelle la bénédiction, ce que notre époque appellerait la réussite, ou la valorisation, ou l'approbation, la sécurité. De pouvoir dire, je suis quelqu'un de bien, j'ai réussi ma vie, je suis béni. Voilà ce que les gens recherchent. Et dans ce chapitre, cette recherche de la bénédiction passe par la voie de l'amour. Les sentiments romantiques, la beauté physique, qui ressort bien dans ce chapitre. Et je me dis, ça correspond bien à notre époque. Cette recherche de la bénédiction, cette recherche de l'amour. Parce qu'on se dit, la religion nous a déçus, la politique nous a déçus, il reste Cupidon pour nous sauver. Et dans les films, effectivement, dans l'espace de 2 heures, voilà, ça se produit, la rencontre parfaite, le coup de foudre, le grand amour, le bonheur éternel, tout ça, en 2 heures. Alors, on reproche la Bible d'être un livre rempli de miracles, mais sur ce coup-là, la Bible est bien plus réaliste que parfois les films de Hollywood avec présentation de l'amour. En tout cas, selon Edith Piaf, c'est des paroles bien connues, pourtant on dit souvent que l'amour est décevant, qu'il y en a un sur deux qui n'est jamais heureux. C'est l'hymne à l'amour. Pourtant on dit souvent que l'amour est décevant, qu'il n'y a un sur deux qui n'est jamais heureux. Et je dirais, c'est un peu ce chapitre, sauf que c'est même pas 1 sur 2, c'est plutôt 2 sur 3, ou voire 3 sur 3, qui n'est jamais heureux dans ce chapitre. Mais ce texte peut nous aider pour éviter qu'on soit celui ou celle qui n'est jamais heureux dans cette recherche de la bénédiction, cette recherche de l'amour. Alors, c'est de ça que nous allons parler ce soir. La recherche de l'amour, la déception inévitable, et puis la solution enfin qu'a pu trouver au moins une personne dans tout ça. Donc la recherche de l'amour, l'inévitable déception et la solution enfin. Tout d'abord, la recherche de l'amour. Ce chapitre commence de manière assez romantique et galante, avec cette heureuse rencontre au puits entre Jacob et Rachel. C'est des rencontres autour d'un puits, c'est important dans la vie. Et de ce que je comprends les détails, il y a les autres bergers qui ne sont pas très sympas, sont paresseux, ou bien, en tout cas, ils font le minimum syndical, ou c'est un jour de grève, je ne sais pas, mais ils ne veulent pas enlever rouler à Pierre, non, c'est qu'on attend, et bien, c'est pas l'heure de la journée. Donc, Jacob intervient pour rendre service à cette bergère, cette Rachel. Alors, c'est sûr que la Bible ne dit pas qu'il s'est mis torse nu pour le faire, mais il faut un peu de muscle pour rouler cette grande pierre tout seul. Ce qui fait spécialement pour Rachel. Déjà, c'est merveilleux. Et puis, ils découvrent Rachel et Jacob, qu'ils ont pas mal de choses en commun. Jacob est tout touché, il va même pleurer de comprendre qu'il y a des liens de parenté. Donc jusque-là, c'est presque mieux qu'une rencontre sur Internet. Ils s'entendent à merveille, et là, Jacob tombe amoureux. C'est flagrant, il tombe amoureux de cette belle fille, Rachel. Mais grave, amoureux, grave. Rappelez-vous de ce qu'on connaît de Jacob jusqu'à là. Il n'a pas vraiment eu l'affection de son père. On a signalé ça ce matin, que Jacob, il était le moins aimé, donc son père a toujours préféré son frère Ésaü. Donc il n'a pas été vraiment aimé, ou moins aimé de son père. Son frère veut le tuer, alors les relations avec son frère ne sont pas au top. Il est très proche de sa mère, mais il vient d'être chassé de chez lui. Donc, Jacob, c'est un paumé, c'est un perdu. Si jamais il y a quelqu'un qui a un manque affectif, c'est ce Jacob à ce moment de sa vie. En tout cas, c'est vraiment le profil à risque. Avec un père qui n'aime pas autant, une coupure qui vient de vivre avec sa mère alors qu'il était un peu celui qui était à la maison autour de sa mère. Et le voilà qui rencontre une belle femme. Et c'est pas n'importe quelle femme, mais en plus la Bible le dit dans ces versets, la Bible dit que Rachel était belle de taille et de figure. Donc elle avait un joli corps, un joli visage, et Jacob voit tout ça, et là c'est... Il se dit, il me faut absolument cette fille. Quoi. C'est la solution à tous mes problèmes. Ma vie est en... Quand on y est en ce moment, mais Rachel va m'aider. Et plusieurs détails de le texte montrent à quel point il voit Rachel comme la solution à tous ses problèmes. Déjà pour la dot, il propose 7 ans de travail. Ça, c'est beaucoup. Je vais travailler 7 ans, hein, 7 ans de salaire pour avoir cette fille. Et d'après les commentaires que j'ai lus, et d'après d'autres détails, d'autres indices dans la loi de Moïse, que je n'ai pas sous la main, c'est beaucoup plus que la dot habituelle. Souvent, c'est quelques chevaux, ou c'est... aujourd'hui, on négocie un peu avec la famille, parfois plus gestuel que, et symbolique qu'autre chose, mais la dot se pratique encore, mais surtout à cette époque, voilà. Mais lui, il propose 7 ans de salaire, 7 ans de travail, c'est énorme. On s'annonce qu'il mise tout sur Rachel pour le rendre heureux. Et même dit, il dit ça, 7 ans c'est rien à tel point que je l'aime. C'est très beau. Mais cette année, voilà. Pensez à le salaire que vous gagnez sur 7 ans, est-ce que vous allez mis ça avant de proposer. En tout cas, on voit chez lui un désir d'affection, une soif d'amour, au point qu'il est manipulable. Parce qu'il demande à son beau-père, son futur beau-père, ok, bon, 7 ans, bon, je l'aime pas, 7 ans. Et Laban dit, en verset 19, Laban dit, la réponse de Laban est très ambiguë. Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Est-ce que Laban s'engage ou pas? Mais en tout cas, il dit, j'aime mieux te la donner à toi qu'à un autre homme. Mais c'est une réponse ambiguë. Laban, donc ça montre Laban, et plus on va voir Laban, c'est quelqu'un qui aime bien, qui sait bien manipuler, hein, mais il sait déjà qu'il va pouvoir profiter et manipuler Jacob au maximum par ses filles, par Rachel. Et on peut dire que Jacob, ce n'est ni le premier homme, ni le dernier à ne pas réfléchir clairement à cause d'une fille. Donc, déjà, le dot qu'il propose montre qu'il est. Je pense que c'est ça la bénédiction, il recherche ça absolument. Mais après, en verset 21, donc les 7 ans sont finis, et il dit donne-moi ma femme, car mon temps est accompli et j'irai vers elle. En fait, sa demande est très crue auprès de son beau-père. J'irai vers elle, c'est l'expression en hébreu pour les relations. Normalement, c'est pas comme ça qu'on se prend avec un beau-père pour demander. Sa fille en mariage, donne-la-moi, j'aimerais coucher avec elle. C'est quelque part ce qu'il dit, et encore aujourd'hui, beaucoup d'hommes sont motivés par une seule pensée. Notre époque ne s'embête même pas avec l'étape du mariage, voilà, c'est encore cette poursuite sensuelle, comme on disait ce matin. Mais pour beaucoup, une rencontre sexuelle, une relation, voilà ce qui va régler tous mes problèmes. C'est un peu l'attitude qu'on trouve chez Jacob à ce moment. Et si on ne reconnaît pas notre monde moderne dans ce Jacob, on ne sort pas beaucoup, parce que tout autour de nous, les gens pratiquent cette démarche, cette recherche de l'amour, en pensant que voilà, c'est ça qui va me combler. Si j'ai cette fille, si j'ai ce garçon, si tel garçon me remarque, alors... Si lui il m'aime, alors là, je saurais que je ne suis pas un nul, je saurais que je ne suis pas un raté, je saurais que je ne suis pas un rejeté, je pourrais enfin combler le manque affectif dans ma vie. Donc voilà la recherche de l'amour qu'on trouve chez Jacob et bien d'autres personnes. Maintenant, parlons de l'inévitable déception quand on recherche la bénédiction et le sens de la vie ainsi. Donc c'est le soir du mariage. Et donc, on amène la mariée à Jacob. Et ce qui se passe ensuite nous étonne un peu, beaucoup, à notre époque. Et on a du mal à imaginer comment c'est même possible qu'une nuit de noces se passe comme ça. Mais voilà, entre l'absence de l'électricité, entre les ténèbres de la tente, entre la voile épaisse de la mariée, entre l'abondance de vin, peut-être lors des noces, en tout cas, Jacob est aveuglé sur la réalité. Et voilà, on peut imaginer que c'est possible à cette époque dans certaines circonstances. Mais en tout cas, verset 25, le lendemain matin, voilà que c'est délai. C'est un des versets les plus rigolos, le plus riche, le plus dense du livre de Genèse. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Voilà ce qu'on appelle une déception amoureuse poussée à un autre niveau. Mais finalement, c'est un résumé de l'expérience de l'homme depuis Éden, depuis que la malédiction a frappé notre monde et nos relations. Et le constat, c'est que quelle que soit la chose, quelle que soit la personne en qui nous mettons notre espérance, le lendemain matin, c'est toujours Léa et jamais Rachel. Regardez les attentes grandioses qui sont placées sur le mariage, le grand amour, toutes ces chansons qui célèbrent l'amour. Cette personne qui enfin va me combler, me satisfaire, m'apporter le bonheur éternel, comme disent nos poètes et nos écrivains de chansons. Et puis, la réalité, c'est que la vie s'installe, les enfants s'installent, le travail s'installe, les années passent, et les gens finissent par dire « Je n'ai pas épousé une Rachel, j'ai épousé une Léa. Hein. J'ai pas épousé un prince charmant, j'ai épousé le crapaud, la grenouille. » Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. C'est notre existence, c'est notre vie. Est-ce que Jacob est purement victime de cette déception? Et c'est là qu'il, en parlant de magouille et de mensonge, est-ce que Jacob est purement victime? Parce qu'il va dire, pourquoi m'as-tu trompé? Pourquoi m'as-tu trompé? Pourquoi m'as-tu jacobé? C'est ton nom. Pourquoi m'as-tu trompé? Mais vous rappelez tous, parce que nous venons de l'étudier ce matin, et un lecteur de Genèse l'aurait pensé, parce que juste avant, c'est lui-même Jacob qui a trompé sa famille, qui a trompé son père, qui a trompé son frère. Alors, il s'indigne, pourquoi m'as-tu trompé? Et nous pensons tous à ce que ses manières, en fait, ce que Laban lui fait, c'est exactement la même chose que lui l'a fait à sa famille, déguisement, manipulation, mensonge. Et donc, ce qu'il a fait et qui l'a poussé à fuir, et la raison qu'il se trouve chez Laban, c'est à cause de ses tromperies. Et maintenant, donc, c'est difficile pour lui de blâmer trop, de s'indigner trop, parce que il est en train de goûter à ses propres méthodes pour obtenir la bénédiction. Et souvent, c'est un peu notre cas aussi, mais c'est vrai que nous sommes victimes de ce mythe, de ce mensonge, de tromperie qui est véhiculé par Hollywood et par toute notre culture, que l'amour charnel, l'amour sensationnel, l'amour coup de foudre, c'est la panacée, c'est le ciel, c'est la paradis, c'est la solution de tous nos problèmes. Mais parfois, nous sommes responsables de l'avoir propagé, de l'avoir vécu, de l'avoir aussi partagé. Dans tout ça, l'autre histoire triste, c'est Léa. Parlons un peu de Léa. Léa, verset 17, le verset dit qu'elle avait des yeux délicats. La formule est parfois pas facile à traduire, à comprendre ce que c'est que des yeux délicats. Et le verset dit, mais sa sœur était belle. Donc Léa avait des yeux délicats, mais sa sœur était belle. Soit elle avait un problème aux yeux, elle louchait d'une manière notable. Ou elle avait de beaux yeux, mais c'est tout le reste qui n'allait pas. Léa avait des yeux délicats, mais Rachel était belle de taille. Donc déjà toute sa vie, il y a une forte comparaison que les gens peuvent faire entre ces deux sœurs. L'une qui est très belle, selon les attentes du monde, selon les critères du monde, et l'autre qui l'est pas, selon les critères du monde. Et maintenant, mariée, c'est pire, sa situation s'empire, parce que là, voilà, maintenant, elle est victime d'un père qui l'exploite pour s'enrichir,
de lamenter tout ça pour avoir Jacob qui travaille pour lui.
Donc, elle est victime d'un père qui l'exploite. Elle est victime d'un mari qui ne l'aime pas. Peut-être que ce n'est pas un faute à Jacob, mais il se retrouve avec une femme qui ne voulait pas, qui demande ça, et donc qui n'aime pas. Et maintenant, une sœur qui va la concurrencer. Donc maintenant, c'est toujours le problème dans ces mariages de polygames. C'est voilà, la concurrence s'installe. Donc elle aussi, tout comme Jacob, tout comme tout le monde ici, encore un manque affectif qu'elle va devoir gérer. Alors Jacob, pour son manque affectif, il va regarder dans la beauté d'une fille, les relations avec une fille pour la combler. Pour Léa, pour les femmes de cette époque, où est-ce qu'elles vont miser tous leurs espoirs pour être aimées, pour réussir, pour obtenir la bénédiction? À cette époque, la solution, c'est d'avoir des enfants. Avoir des enfants, c'est les enfants qui offraient, beaucoup d'enfants qui offraient la sécurité, la stabilité, la réussite, la bénédiction au regard du monde. C'était la sécurité sociale de l'époque, c'était le standing social, c'est d'avoir beaucoup d'enfants. Et donc la stérilité était toujours difficile à gérer, mais peut-être encore plus à cette époque. Et donc pour Léa, qui n'est pas aimée de son mari, qui n'est pas vraiment aimée, respectée de son père, qui est concurrencée par la beauté de sa sœur, la solution pour elle, c'est d'avoir des enfants. Elle se dit, si je donne des enfants à mon mari, là, peut-être, enfin, je serai aimé. Là, enfin, je serai béni, si je peux offrir les enfants à mon mari. Donc, c'est un peu son attitude. Et vous voyez dans les derniers versets du chapitre 31, l'Éternel dit que Léa n'était pas aimé, donc il a rendu féconde. Et chaque fois, elle a un enfant, elle nomme l'enfant, avec ce petit commentaire, car maintenant, peut-être, mon mari va m'aimer. Donc, Ruben, l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant, mon mari l'aimera. Mais est-ce que c'est le cas? Parce que le fils suivant, Simeon, va dire la même chose. Il dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Donc il m'a donné Simeon. Et pareil avec Lévi, elle dit, cette fois-ci, mon mari, peut-être, il va s'attacher à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. Donc, elle compte sur ses enfants pour enfin recevoir l'amour de son mari. Mais ça ne semble pas marcher, parce que chaque fois, elle ne se sait pas aimer. Chaque fois, elle voit Rachel à côté, chaque fois, ça ne semble pas arranger la situation. Donc, elle aussi ne vit que des déceptions. C'est peut-être une autre manière que Jacob, mais si on compte encore sur ces choses-là pour apporter la bénédiction, la sécurité, la réussite, c'est déception, parce que même qu'elle offre à son mari des enfants, elle n'est pas pour autant plus aimée. Donc, l'inévitable déception dans la vie de Jacob et Léa et tout ce monde. Donc, regardons enfin la solution à tout ça. Et ce qui est beau, c'est Léa qui va trouver la solution en premier. Et si vous regardez le dernier, verset 35, pour son quatrième enfant, verset 35, elle devint encore enceinte, elle enfante un fils, elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. Cette fois, elle lui donna le nom de Judas. Cette fois, je vais louer l'Éternel. Voilà ce que devait dire Judas, je loue l'Éternel. Cette fois, je vais louer l'Éternel. Même si je suis moins belle que ma sœur, je vais louer l'Éternel. Même si mon mari n'aime pas comme j'aimerais qu'il m'aime, je vais louer l'Éternel. C'est-à-dire, cette fois, je loue l'Éternel, c'est comme si elle dit, je ne vais plus compter sur le regard de ma sœur, sur le regard de mon mari, sur le regard de ma culture pour me valoriser, pour me donner ma joie et ma stabilité, ma sécurité, mais je regarde l'Éternel, je vais louer l'Éternel pour ce qu'il est, ce qu'il m'apporte. Et je dirais, c'est ça la solution. C'est la solution, enfin, cette recherche d'amour, cette recherche de réussite, c'est de découvrir que Dieu seul peut combler les besoins de notre cœur. Et à partir de là, on est prêt à aimer d'autres personnes, et on est prêt à recevoir l'amour d'autres personnes. Mais avant ça, ces personnes-là, ces amours-là ne peuvent jamais combler le cœur. C'est Augustin, vous connaissez ce qu'avait dit Augustin, Notre cœur est sans repos tant qu'il ne se repose pas en toi. Notre cœur est sans repos tant qu'il ne se repose pas en toi. Et je dirais c'est un des grands clés d'un mariage réussi, c'est d'avoir déjà comblé le cœur avec Dieu, ses promesses, sa grâce, son amour. Là on est prêt à s'engager. Mais avant ça, on court un danger. Si je compte sur mon amant, si je compte sur mon conjoint de faire ce que Dieu seul peut faire, là je risque de détruire la relation, de détruire l'autre personne, parce que je suis en train de compter sur l'autre personne à faire ce que Dieu seul peut faire, c'est-à-dire me donner la réussite, la bénédiction dans mon âme, dans même en moi. Et si vous regardez bien, c'est le quatrième enfant où Léa décide de louer l'Éternel. Elle peut-être ne sait pas tout, mais la bénédiction de Dieu, la grande bénédiction de Dieu, Léa est bénie. Léa est comblée à ce moment avec ce Judas. Parce que vous connaissez, donc Léa, on oublie parfois c'est Léa, mais Léa, c'est elle qui est mère de Judas. Et Judas, c'est de Judas qui va descendre dans la tribu des rois. C'est par Judas que viendra le Messie, le roi, Jésus. Donc c'est Léa qui est en quelque sorte la fille à l'honneur dans ce chapitre et dans la lignée qui va aller jusqu'à Jésus-Christ. Ça, la fille que personne ne trouvait jolie, Dieu l'a trouvée jolie et Dieu l'a rendue jolie en la faisant quelque part une reine, une mère des rois, mère de la lignée des rois qui aboutit à Jésus-Christ. Dieu prend la fille qui n'est pas aimée et il lui donne à elle tous les honneurs. Dieu aime personne. Sa bénédiction marche comme ça. Il va chercher ceux et celles que le monde veut rejeter, ceux et celles que le monde dit non, tu n'as pas la bénédiction, tu n'as pas la beauté physique, tu n'as pas la relation amoureuse qui te vaut. Mais Dieu, il va vers ces gens-là justement et il les touche, il les comble, il les bénit. Dieu aime faire ça, il aime prendre les personnes les moins réussies aux yeux du monde, les moins méritantes, pour les bénir. C'est sûr que dans tout ce chapitre, personne n'est particulièrement meilleur, plus méritant que l'autre. Rachel n'a pas forcément une bonne attitude, notamment dans la suite. Léa non plus, Laban, Jacob, personne, mais Dieu décide de bénir toute cette famille d'ailleurs, et notamment Léa en particulier. Pourquoi Dieu a-t-il un penchant pour les Léa, pour les rejeter? Parce que l'Évangile fonctionne comme ça. Un jour, Dieu lui-même est devenu une sorte de Léa, quelqu'un qui n'était pas beau aux yeux du monde, en Jésus-Christ. Personne n'a trouvé lui beau ou fort. Jésus est allé à la croix pour nous, et surtout à la croix, et il n'était pas beau. Il n'était pas aimable, il a été rejeté par tous. Pourquoi il a fait ça? C'était pour nous montrer son amour, pour enfin combler ce manque affectif qui nous frappe, pour remplir nos cœurs, pour nous rendre jolis, et pour rassembler en lui un peuple qui va ensuite appeler son épouse, qu'il est en train de préparer pour être son épouse toute belle. Ça nous donne l'espoir à tous, parce qu'on peut tous dire, et on doit tous dire, oui, moralement, spirituellement, je ne suis pas très joli, je suis une Léa, mais j'ai trouvé le grand amour, j'ai trouvé l'amour qui ne déçoit jamais. Edith Piaf parlait d'un amour qui va toujours décevoir, elle disait une sur deux, mais moi je disais deux fois, deux sur deux, si on compte sur cet amour-là. Mais l'amour qui nous vient de Dieu en Jésus-Christ, il a prouvé à la croix, cet amour laisse personne déçu. Vous savez, dans le Nouveau Testament, vous lisez ces histoires, quand on arrive au Nouveau Testament, je vous laisse un dernier épisode ce soir, c'est que il y a toutes ces histoires dans l'Ancien Testament d'un homme qui rencontre son épouse autour d'un puits, comme ici, Jacob. Là, c'est avant lui, Abraham et même pour Rebecca, c'était un peu au bout d'un puits.
Plus tard, Moïse va rencontrer sa femme, surtout la Bible.
On disait ce matin, quand les histoires se ressemblent, c'est fait pour être un peu mélangé dans notre esprit. On arrive au Nouveau Testament, il y a un puits de Jacob. Il y a une femme là. Et Jésus rencontre une femme à côté d'un puits. Sauf que cette fois-ci, la femme, elle n'est pas comme un peu les autres. Cette femme, la femme samaritaine, peut-être vous connaissez, elle n'est pas très jolie. Et moralement, elle n'est pas. Spirituellement, elle a tout pour être rejetée, tout comme l'air. Mais c'est cette femme que Jésus va toucher. Et bien sûr, Jésus est resté célibataire. Et c'est pas. Il n'y a rien d'amour physique entre les deux. Mais l'histoire montre que Jésus est en train de composer un peuple, une épouse, faite de personnes comme la femme samaritaine. Et il va toucher de telles personnes et les combler. On parlait de cette soif d'amour, cette soif d'affection. La femme samaritaine avait justement ça. Même problème, elle avait eu 5 maris et le 6e n'était même pas son mari. Et elle aussi va pouvoir rencontrer ce Jésus qui enfin comble les cœurs, qui nous remplit de son pardon, de son amour, et qui fait de nous maintenant son peuple composé de juifs, de samaritains, de toutes sortes de personnes avec des parcours différents, des arrière-plans différents. Personne n'est particulièrement beau ou belle aux yeux de ce monde, selon les critères de ce monde, mais Jésus nous trouve beau et belle, et il fait de nous ce qu'il peut. Et donc, lorsque nous recherchons auprès de lui l'amour et la bénédiction, on est enfin comblé. Et on est prêt à aimer les autres et à être aimé des autres, parce qu'on ne compte pas sur leur amour pour combler notre âme éternellement, mais pour plutôt refléter et donner l'amour que nous avons reçu et le déverser dans la vie des autres. Et c'est ça, la réussite, la vraie réussite de l'amour. Voilà. Je veux prier pour nous, frères, à la fin.
Je vais vous poser une question.
Oui.
Léa, on ne m'a pas apporté de l'intelligence, parce que je n'ai pas réussi à le voir au début de.
Il n'y a pas de verset qui dit qu'elle était spécialement intelligente. Après.
Parce que généralement, il donne. Même si elle n'est pas. Généralement, il donne toujours. Il a donné le cadeau, mais il donne toujours un.
Bon, il lui a donné la foi, il lui a donné. C'est elle, je dirais, elle, quand elle peut dire je louerai l'Éternel, elle montre plus de foi à ce moment-là que les autres. Donc, si la vraie intelligence, la vraie sagesse, c'est de craindre l'Éternel, de le reconnaître dans nos vies. Oui, on peut dire qu'elle a eu, finalement, été plus proche à Dieu que tous les autres, en tout cas dans ce chapitre.
Ça veut dire que c'était déjà en elle. C'était déjà en elle et qu'elle l'a retenu.
Oui, je pense que qu'elle puisse dire, je louerai l'Éternel cette fois-ci. Et pour nous, c'est souvent la solution. Quand la vie ne va pas, quand il y a plein de problèmes, quand il y a plein de déceptions, quand on peut se plaindre, on peut jalouser les autres, ou bien on peut louer l'Éternel. Et à tout moment, il me semble, on doit apprendre comme Léa à louer l'Éternel, quelles que soient nos circonstances. Louer pour ce qu'il a fait, louer pour sa grâce, louer pour son salut en Jésus-Christ. Et cette louange, quand on vit dans cette louange et cette reconnaissance, ça change tout. Ça change notre attitude.